This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Tokyo et à Berlin, deux capitales à la une d'ailleurs dans le monde avec Michael Thébault. La revue de presse des correspondants d'Inter passe cette semaine par Londres et Moscou avec Antoine Gignot et Claude Bruyot. Culture, Mathieu Culeron nous parlera d'un festival de musiques urbaines en Côte d'Ivoire à 18h55. Les derniers développements de la crise au Venezuela dans l'édito d'Anthony Bélanger. Mais tout de suite, on va parler économie.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Avec vous, Éric Ayer, bonsoir.
Bonsoir.
Département analyse et prévision à l'OFCE. Une question à la fois panoramique et rétrospective pour commencer. Comment aurez-vous trouvé, pour finir, la qualité du débat dans cette campagne présidentielle française ?
Alors en tout cas pour finir, c'est-à-dire avec ce débat, c'était un peu affligeant en termes de niveau et très frustrant quand on est économiste parce que finalement on n'est pas rentré dans le cœur du débat. C'est-à-dire que c'est à la fois c'était très simpliste dans le sens où on savait vraiment il y avait deux modèles très distincts et donc c'était facile de choisir entre le modèle anti-Europe protectionniste et européen et mondialiste, mais globalement. Vous voyez, très clairement, moi je suis européen dans la mondialisation, mais pas pour n'importe quelle Europe et pas pour n'importe quelle mondialisation. Et là, j'ai pas eu droit à mon débat. Et donc, c'est extrêmement frustrant pour un économiste.
La campagne sera restée trop floue, d'après vous ?
Alors, pas toute la campagne. Il y a eu des éléments intéressants dans la campagne. Et on peut dire que Benoît Hamon était sans doute celui qui a apporté le plus de fraîcheur avec... on pouvait ne pas être d'accord, mais en tout cas, l'idée peut-être que demain, le travail serait terminé, qu'il y aurait une sorte de stagnation séculaire ou que les robots prendraient notre travail. Et donc, comment fait-on si... parce que c'est une question qu'on se pose, nous, économistes. On n'est pas sûr qu'effectivement, Benoît Hamon n'ait pas raison. Et donc, imaginons qu'il ait raison, comment fait-on avec 10% de chômage? Est-ce que le revenu universel est une solution, sans doute ou pas? Et donc ça, c'était amusant parce que ça nous amenait un peu à réfléchir à demain. Et je pense que c'est ça le rôle d'une présidentielle. C'est pas uniquement à faire un projet de loi de finances pour les 5 prochaines années, à discuter du budget, des économies, de la fiscalité, mais peut-être aussi un projet sur le long terme. Vous voyez, on a très peu parlé d'environnement, on a très peu parlé de logement, et pourtant, ce sont des éléments assez centraux. Ça, c'était un peu dommage. Je pense que vraiment, Benoît Hamon a été un peu cette fraîcheur, mais n'avait pas finalement le poids politique pour amener tout le monde dans ce débat-là. Et à la fin, on est tombé dans une caricature de débat.
Comment décririez-vous, Éric Ayer, l'idéologie ou la philosophie économique d'Emmanuel Macron? On va venir à Marine Le Pen après.
Alors, si on veut reprendre une terminologie économique, on pourrait dire c'est un peu schumpeterien. Ça veut dire quoi? C'est un peu cette idée de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau monde qui se crée, donc c'est ça la création, mais pendant que le nouveau monde se crée, il y a l'ancien monde qui meurt. Et donc il y a des perdants, puis après des gagnants, et il faut surtout pas, quand on est schumpeterien, mettre des barrières à la sortie du nouveau monde. Et donc c'est un peu ça son idée, c'est qu'on supprime un peu toutes les barrières, et donc on flexibilise le marché du travail, on enlève les barrières à l'entrée, donc on réforme aussi les marchés des biens et services. C'était ça sa loi Macron lorsqu'il était au ministère de l'économie. Et ce qui est important dans ce cas de figure, c'est de se dire, bon, mais les nouveaux emplois vont sans doute être différents des anciens, et donc la protection sociale doit être aussi différente, et donc notre modèle social doit un peu s'adapter à ce nouveau monde. Et il a quelques pistes, vous voyez, le fait que le chômage ne soit plus une assurance chômage mais un droit universel, parce qu'il y aura beaucoup d'indépendants, et donc ces indépendants ont aussi un besoin de sécurité. C'était une première piste qui pouvait être intéressante. Alors malheureusement, il nous explique pas très bien comment, il nous explique bien la flexibilité et donc comment on fait émerger le nouveau monde. Le côté sécurité, on comprend pas bien sa logique avec comment elle s'articule avec, il faut quand même réduire très fortement le déficit et le poids de l'État. C'est-à-dire que les schumpeteriens, normalement, doivent aussi aller avec le rôle de l'État, providence, doit être important. Vous voyez, c'est le modèle un peu scandinave où, effectivement, vous flexibilisez beaucoup plus qu'en France, mais vous avez un État, providence, qui est là pour sécuriser l'individu. Comment fait-on pour sécuriser l'individu et avoir un état-providence aussi fort avec une volonté de réduire toujours les dépenses publiques? C'était sans doute là le chaînon manquant.
Éric Ayer, destruction créatrice, on comprend la logique qui est très profonde, très féconde, très intéressante, stimulante sur le plan intellectuel. Entre le cycle de destruction et celui de création, on fait quoi de ceux qui sont dans la tenaille?
C'est ça l'enjeu. Alors, il faut...
Et ça dure combien de temps?
On peut se fier au passé, mais on peut aussi penser que ça va de plus en plus vite. Et donc, du coup, c'est... La première réponse est par la formation, c'est-à-dire qu'il faut à la fois anticiper les emplois de demain et donc arrêter de former des jeunes à des emplois qui vont disparaître, et ensuite ceux qui perdent leur emploi aujourd'hui dans les anciens métiers, il faut les garder au chômage dans un premier temps. Vous voyez que cette idée de est-ce qu'il faut que le chômage soit de plus en plus court, vous voyez que les prix Nobel de 2010 disaient mais ça dépend, vous voyez que si vous êtes dans des emplois d'hier et pas de demain, il faut au contraire vous garder longtemps au chômage pour vous requalifier un nouveau métier. On ne vous requalifie pas en l'espace de 6 mois ou 12 mois. Il faut 2 à 3 ans. Et pendant ces 2 à 3 ans, il faut aussi avoir un revenu décent. Sinon, la personne dit « ça ne m'intéresse pas, moi j'ai une famille à nourrir ». Donc c'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faudrait, bien essayer d'anticiper quels seront les besoins de demain, donc former les jeunes, et ensuite dire à ceux qui vont perdre leur métier, les arrêter au chômage et leur dire « non mais prenons du temps pour te requalifier et ne cours pas vers un autre emploi qui n'a une durée de vie qui est très faible ». Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est bien sûr via l'État-providence. Et c'est en cela où l'État-providence ne doit pas être l'ennemi du métier de demain. Au contraire, ça doit accompagner cette transformation-là. Donc on peut très bien avoir une flexibilité accrue avec un État-providence.
Éric Ayer, l'économiste proche d'Emmanuel Macron, Philippe Aguillon, était sur France Inter dimanche dernier. Il a parlé en termes méthodologiques des ordonnances pour réformer le marché du travail, en disant qu'il avait un respect immense pour le travail parlementaire, mais que tout ça était long et que si on veut faire des réformes de structure et les voir fonctionner assez rapidement, il faut les faire au début du quinquennat, et donc par cette méthode des ordonnances. Est-ce que vous trouvez que sur ce type de sujet, c'est la bonne façon de faire?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, on a sans doute du mal à réformer en France, quoique on peut toujours discuter, il y a tout de même eu un certain nombre de réformes, mais je pense qu'on ne peut pas penser qu'on passera des réformes sans en parler aux corps intermédiaires et sans passer par les corps intermédiaires. Je pense que c'est une erreur de dire c'est l'État qui sait, et donc c'est l'État qui va imposer toutes ces genres de réformes. Non, il faut au contraire qu'elles soient extrêmement bien expliquées, et il faut mettre les corps intermédiaires, les syndicats, les salariés, dans la boucle. Et donc, soit vous voulez vraiment inverser la hiérarchie des normes, pourquoi pas, c'est-à-dire dire que maintenant, tout doit se passer dans l'entreprise. Mais alors, ça veut dire que dans l'entreprise, il faut que les salariés soient associés à l'entreprise. Et donc, il y a un modèle qui le fait, c'est le modèle rhénan de co-gestion. Pourquoi pas? Prenons exemple, puisque très souvent, on prend exemple sur l'Allemagne, souvent quand c'est pas un modèle, mais là, quand c'est un modèle, regardons. Effectivement, si on dit que les salariés sont associés à l'entreprise, et les salariés vont comprendre les intérêts de l'entreprise, vont essayer de voir est-ce que finalement les réformes apportent quelque chose. Et donc, c'est en cela. Alors, il faudrait peut-être commencer, avant de faire des réformes, de mettre en place les moyens de faire cette réforme. Et donc, il faudrait d'abord commencer par rétablir un dialogue social, pourquoi pas par la co-gestion, si on veut inverser la hiérarchie des normes. Et une fois que l'on a inversé et qu'on a fait cette co-gestion-là, alors on peut passer par ordonnance, parce qu'effectivement, on arrivera, les salariés comprendront ce qui se passe, auront un droit de parole, de veto, et là, ça sera plausible. Aujourd'hui, se dire on va faire la loi El Khomri, puissance 2, 3, 4, peu importe.
De manière verticale, sans débat.
Je pense que ça va être extrêmement compliqué pour faire passer le message à la fois dans les entreprises, chez les salariés, et c'est surtout considérer que les syndicats et tous les corps intermédiaires n'ont plus aucune importance. Et puis, je rappelle que de toute manière, le Parlement devra voter.
Est-ce que, vous avez dit schumpeterien pour Macron, est-ce qu'il y a un mot qui vous vient à l'esprit pour caractériser le programme économique de Marine Le Pen?
Bah, c'est, en tout cas, c'est protectionnisme, ça. On sera tous d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça part d'un principe que, pourquoi pas, hein, la mondialisation, il y a effectivement des gagnants et des perdants, et que du coup, on ne se place que du côté des perdants, en disant, ben voilà, on va tout fermer. On voit bien que ça doit être un peu plus équilibré, comme il ne faut pas se voiler la face et ne pas voir le côté perdant de la mondialisation, il faut aussi regarder les côtés gagnants. Et puis, il me semble qu'aujourd'hui, le faire en sortant de la zone euro est un phénomène qui va amplifier les perdants. Et donc, du coup, ce n'est pas la bonne réponse de mon point de vue. Mais encore une fois, on est là pour en discuter. Le problème, c'est que tout ça n'est pas bien discuté, tout ça n'est pas bien posé. Et il n'y a pas de vraie volonté de discuter de justement quels sont les bien fondés de la zone euro, comment on peut améliorer cette zone euro. Je pense que là aussi, vous allez dire que je parle beaucoup de Benoît Hamon, mais effectivement, il y avait sur la table, alors c'était Thomas Piketty qui l'avait rédigé, mais une façon d'essayer d'améliorer la façon de réfléchir en zone euro. Alors, c'était les Français qui posaient avec ce traité démocratique la première pierre, qui était sans doute imparfaite, mais ça avait au moins le mérite d'exister. On pouvait discuter. Redonner la place de la démocratie dans les décisions européennes, c'est sans doute ce qui manque. Il faut sortir de cette Europe qui ne raisonne qu'en termes de déficit sur le PIB, de dette sur le PIB. Il n'y a pas que cela en Europe. Et donc, c'était important que on remette l'Europe au cœur du débat et de la démocratie au cœur de l'Europe.
Éric Heyer, est-ce que vous pensiez de votre vivant devoir répondre à la question que je vous pose, qu'est-ce que l'écu? Et est-ce que l'écu est l'avenir de l'euro?
Non, c'est peut-être ça qui est bien aussi avec Marine Le Pen, c'est qu'on révise un peu l'économie. Et effectivement,
à quoi servait cet écu avant l'euro?
Alors l'écu n'était pas une monnaie en
European
tant que
European Currency Unit.
Ouais. Alors c'était pas une monnaie comme l'euro dans le sens où il n'y avait pas une cotation de cette monnaie. C'était toutes les monnaies européennes. Et c'était une pondération, une somme pondérée de toutes ces monnaies-là. Et donc, globalement, elle était extrêmement stable. C'était ça qui était intéressant. C'était qu'elle bougeait très peu. En tout cas, quand une augmentait, l'autre baissait. Donc, du coup, l'écu
était moyennisé.
Mais c'était juste une unité de compte. Hein. C'était pas du tout, il n'y avait pas de transaction en écu. Et c'était une façon de commencer à réfléchir à une monnaie unique. Donc, c'était la première étape. Vous voyez, c'est comme normalement, quand on entre dans l'Union européenne, ça a vocation à rentrer dans la zone euro. Il n'y a aucune raison de rester que dans l'Union européenne. Ben là, c'était le premier point. Mais on ne peut pas comparer l'écu et l'euro. Ça n'a absolument rien à voir.
La sortie de l'euro, Éric Heyer, et alors je ne suis pas historien et j'avoue sans problème mon incompétence en la matière. Enfin, et sans précédent.
De la zone euro.
Oui, de la zone euro. Enfin, ou sortir d'une monnaie.
Alors il y a eu
d'une monnaie commune. Enfin,
oui, il y a eu des cas d'explosion de zone. Il y a eu. Alors, c'est un économiste Rose qui l'a recensé. Il y en a à peu près 61 ou 69. Là, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais plus de 60. Donc, non, ça a déjà existé. Alors, maintenant, de la zone euro, non. Et il faut quand même rappeler que normalement, on ne peut pas. Alors, on peut en sortir, on peut pas être exclu de cette zone euro. Mais non, effectivement, la zone euro, il n'y a aucun pays qui n'est sorti de la zone euro. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que, imaginons que la France décide de sortir de la zone euro, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la fin de la zone euro. Il ne faut pas penser que seule la France sortirait de la zone euro et que donc, du coup, le franc se dévaluerait par rapport à toutes les monnaies de la zone euro. Non, il y aurait une explosion de la zone euro. Et donc, sans doute, le franc se dévaluerait par rapport aux marques, mais il s'apprécierait par rapport à la pesetas, par rapport à la lire, par rapport aux autres monnaies du Sud. Donc, y compris le côté peut-être positif d'une sortie qui serait, on dévaluerait notre monnaie, on gagnerait en compétitivité. Attention, par rapport aux Allemands, mais par rapport aux autres pays, sans doute, on aurait une monnaie qui s'apprécierait. Donc, attention, les effets ne seront pas aussi nets.
Est-ce qu'il y a un autre pays de la zone euro qui entretient, en tout cas pour une partie de son personnel politique, un tel rapport de haine à la monnaie unique?
Je crois qu'aujourd'hui, si on devait faire des sondages un peu dans tous les pays, l'Europe n'est pas très populaire dans le Sud. Hein. On est dans tous les pays du Sud de l'Europe, même si, au bout du bout, ils hésiteraient à sortir sortir de la zone euro parce qu'on sait qu'on a beaucoup à perdre de la zone euro. Peut-être que c'est ça qu'on n'arrive pas bien à faire, nous, économistes, c'est la pédagogie des bienfaits d'être dans cette monnaie unique. Effectivement, on rappelle que les contraintes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, et notamment pour les pays du Sud, il y a une sorte de stabilité monétaire, il y a des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles, et tout cela, il n'y a plus de guerre de monnaie, de guerre de change qui polluait vraiment la vie de tous ces pays-là. Donc ça, c'est tout de même intéressant, et je ne parle pas de tout le côté paix, mais d'un point de vue économique, il y avait quand même, il y a un intérêt d'être dans sa monnaie. Alors, et aujourd'hui, le fait d'en sortir sur un tel casse-tête d'un point de vue de bilan en termes de patrimoine et donc de bilan pour les banques et pour les entreprises et pour les ménages, que finalement personne ne veut se risquer à sortir.
Éric Ayer, merci, département analyse et prévision à l'OFCE. Merci pour ce point au lendemain du débat Macron-Le Pen, un point donc sous l'angle économique. Dans quelques instants, la revue de presse des correspondants d'Inter. Il est 18h32, Dépêche Mode. Dépêche Mode sur Inter, il est 18h34.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Moscou, Claude Bruyot.
Jérusalem, Étienne Monard.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous. Mais oui, tous les jeudis, c'est la revue de presse des correspondants d'Inter avant de filer à Londres, retrouver Antoine Gignot. Direction Moscou, bonsoir mon cher Claude Bruyot.
Bonsoir Nicolas.
À Moscou, Claude, la presse russe revient sur le débat Macron-Le Pen d'hier soir et les médias chez vous se sont évidemment arrêtés, Claude, sur la vision des deux candidats concernant les relations franco-russes.
Oui, et lorsqu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont abordé hier soir donc les questions internationales et se sont notamment exprimés rapidement sur leur vision des relations franco-russes, il était plus de 23 heures à Moscou. Alors si c'est peu de dire que le Kremlin en particulier, la Russie en général, ne vivent pas au rythme de la campagne présidentielle en France. En cherchant bien, on trouve toutefois quelques échos, quasi unanimes d'ailleurs, dans la presse russe, comme Rossiyskaya Gazeta, proche du pouvoir, pour expliquer aux lecteurs et aux internautes que Emmanuel Macron a gagné le débat sur la base des sondages au sortir de l'émission. À la mi-journée, Pierre Vécanal, l'une des principales chaînes du pays, a diffusé un extrait du débat lorsque les deux candidats ont évoqué donc leur vision des relations franco-russes sans commentaire. Encore une fois, à la fin du reportage, la présentatrice a précisé que Emmanuel Macron avait gagné le débat, toujours en citant les sondages. Seul TVC, une chaîne locale, moscovite, a insisté sur le fait que Emmanuel Macron était d'accord pour discuter avec la Russie, malgré des visions et des valeurs différentes de celles de Vladimir Poutine.
Et également à la une chez vous, Claude, les suites du tête-à-tête tendu entre Vladimir Poutine et Angela Merkel mardi.
Oui, d'une façon générale, d'ailleurs, la presse russe a peu évoqué ce moment tendu donc de la relation Poutine-Merkel de mardi. Et c'est Novaya Gazeta qui prolonge la sortie d'Angela Merkel, préoccupée donc par le sort des homosexuels en Tchétchénie, en conférence de presse devant un Vladimir Poutine de marbre avant-hier. Novaya Gazeta, 48 heures plus tard, donc se fait cette fois l'écho de la lettre commune des 5 ministres des Affaires étrangères d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède. Lettre dans laquelle ils demandent instamment gouvernement russe d'user de son influence pour que cesse la répression contre les homosexuels en Tchétchénie et pour que les auteurs soient jugés. Novaya Gazeta, pour mémoire, c'est le quotidien qui a révélé cette situation il y a un mois et dont les journalistes ont reçu ensuite des menaces en provenance de Grozny.
Alors au-delà de cette tension, Claude, tension prolongée autour du sort des homosexuels en Tchétchénie, Poutine a-t-il ou non conforté sa stratégie d'interlocuteur incontournable sur les grands dossiers internationaux, sur le conflit en Syrie?
Oui, effectivement, donc à l'actif de Vladimir Poutine, davantage de journaux s'arrêtent, comme Vedomosti par exemple, sur les visions communes du Kremlin, de la Turquie et des USA, après les échanges donc Poutine-Trump au téléphone, puis Poutine-Erdogan à Sochi hier, notamment en faveur donc du développement de zones de sécurité en Syrie. Vedomosti rappelle toutefois que le numéro 1 turc considère la question des Kurdes de Syrie comme étant loin d'être résolue. Pour la petite histoire, Russes et Turcs ont levé hier leurs restrictions commerciales, à l'exception des importations de tomates turques, toujours interdites en Russie. Aujourd'hui, les tomates russes, donc protégées, bien que de qualité moyenne, on va le dire comme ça pour être gentil, sont à 3 euros le kilo. Les tomates azéries, de loin les meilleures sur le marché, sont devenues un véritable produit de luxe, à plus de 7 euros le kilo.
Claude Bruyot en direct de Moscou, merci. Et bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Alors à Londres, chez vous, les rédacteurs en chef de la presse britannique, Antoine, ont eu quelques sueurs froides.
Oui, on n'a pas beaucoup dormi ici la nuit dernière à cause de ce message posté sur Twitter par les journalistes du Daily Mail. Réunion exceptionnelle au palais de Buckingham. Tout le personnel a été convoqué en urgence. Les femmes de chambre, les jardiniers, les secrétaires ici à Londres, mais aussi plusieurs centaines d'employés un peu partout dans le pays, au château de Windsor, au palais de Holyrood, en Écosse, dans les résidences de Balmoral. Bref, vous les mettez tous dans le train, dans l'avion, dans le taxi, voilà la consigne. Évidemment, tout le monde a pensé à la mort de la reine, les équipes de télé se sont installées en face de Buckingham, et finalement, lorsque le jour s'est levé, le drapeau a été hissé comme d'habitude pour signifier que tout allait bien. On a appris en milieu de matinée que cette petite réunion était juste censée permettre au mari d'Elisabeth II d'annoncer son départ à la retraite. Et entre-temps, le Sun a eu le temps de mettre malencontreusement en ligne le brouillon d'un article intitulé « Voici comment le duc d'Édimbourg est mort », etc., etc. On a frôlé l'incident diplomatique.
Et après des mois de couverture consacrée au Brexit et aux migrants, Antoine, c'est du coup le grand retour de la famille royale à la une des tabloïdes.
Avec cette photo parmi tant d'autres, publiée sur le site du Mirror, le prince Philippe, 95 ans, avec des larmes aux yeux au moment d'annoncer sa retraite. En fait, le mari de la reine Elisabeth et duc d'Édimbourg n'a jamais joué aucun rôle constitutionnel. Il préside tout de même près de 800 organisations et associations. Il a fait depuis 1952 22 191 apparitions très précisément, 637 visites en solo à l'étranger et 5493 discours. Il va continuer jusqu'à la fin du mois d'août. Ensuite, il n'acceptera pas de nouvelles invitations. Et la presse en profite surtout pour rappeler les meilleures blagues du royal gaffeur, parce que le prince Philippe n'a jamais manquer de franc-parler, rappelle le Daily Mail, au point d'être parfois franchement machiste, voire à la limite du racisme assumé. Quelques exemples, Canada, 1969, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je déclare ce machin ouvert. Il y a aussi cette phrase lancée à des étudiants britanniques en Chine, 1986, ne restez pas là trop longtemps, sinon vous allez tous avoir les yeux bridés. Cette interrogation face aux aborigènes d'Australie, 2002, est-ce que vous continuez toujours à vous battre avec des lances? Ça ne vole pas très haut et celle-ci est intéressante également. Ça se passe en 2001, un collégien explique au prince Philippe qu'il veut aller plus tard dans l'espace et il lui répond « Mais tu es bien trop gros pour être un astronaute ». Un peu plus léger tout de même, le Mirror met en ligne une vidéo avec le tout dernier jeu de mots officiel du prince Philippe à l'un des invités qui lui disait ce matin « Je suis désolé d'apprendre que vous vous retirez de la vie publique. I'm sorry to hear that you're standing down. » Il répond « Well, I can't stand up much longer. » Autrement dit, je n'ai pas vraiment le choix, je ne tiens plus vraiment debout.
Et pendant ce temps, Antoine, les Britanniques votent et les travaillistes, eux non plus, risquent de ne pas tenir debout très longtemps.
C'est ce que dit le Financial Times. Au-delà des blagues douteuses sur le prince Philippe, il y a aujourd'hui effectivement des élections municipales qui ne donnent pas vraiment envie de rire à la gauche parce qu'elles servent de répétition générale avant les législatives prévues le mois prochain. Et selon les premières estimations, les travaillistes pourraient perdre au moins une centaine de sièges dans les mairies, y compris dans les grandes villes industrielles, Glasgow, Cardiff, peut-être Birmingham. Et c'est l'un des résultats du Brexit. Le Labour et son chef Jeremy Corbyn restent accusés de ne pas avoir de plan pour limiter l'impact du Brexit. Les conservateurs, eux, réclament dans tous les meetings le soutien populaire pour, disent-ils, avoir du poids dans les négociations internationales.
Antoine Gignot à Londres, merci.
Gracias, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir. Et
bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde avec vous, retour une fois encore sur le débat d'hier soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Débat vu de Tokyo dans un instant, mais d'abord vu de Berlin.
Eh oui, Berlin, où nous attend Cyril Sauvageau, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on l'a dit à maintes reprises, hein, ici même, Cyril, la présidentielle française est évidemment suivie de très très près chez vous en Allemagne, compte tenu bien sûr des enjeux pour l'Europe et pour le couple franco-allemand. Et le débat d'hier soir était d'ailleurs retransmis en direct à la télé allemande.
Et 370 000 téléspectateurs l'ont suivi en direct sur la chaîne thématique Phoenix. 1,5 point d'audience. Alors, ça paraît peu, mais c'est pas négligeable pour un débat politique étranger. Ça montre bien combien l'Allemagne se passionne cette année, peut-être plus que jamais pour l'élection française. En témoignent les nombreux commentaires et éditos dans la presse qui débriefent ce débat à couteau tiré entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Beaucoup d'observateurs ont été sidérés par l'agressivité des échanges. Un ton inhabituel en Allemagne où le débat politique paraît bien sage en comparaison. Klaus Petersick est chercheur, spécialiste des relations franco-allemandes et il a regardé le débat avec ses yeux d'allemand.
Vous savez, les Allemands sont une nation qui sont portés vers le consensus et vers un débat mesuré. Ils aiment bien osciller autour d'un centre de modération. Et on a vu là hier un débat où les invectives étaient dans l'air et c'est quelque chose qui a été passionnant pour les Allemands, mais en même temps, ils sont un peu peureux devant une telle atmosphère.
Plus sévère, la presse déplore la piètre qualité du débat indigne de la présidentielle avec des présentateurs inexistants et une candidate du FN qui, écrit le Spiegel, n'a même pas cherché à paraître crédible. Marine Le Pen a oublié le débat politique pour tomber au niveau café du commerce, ajoute l'hebdomadaire Die Zeit.
Et cela n'aura pas échappé aux téléspectateurs. Hein. Outre-Rhin, il a souvent été question dans ce débat de l'Allemagne et de la chancelière Angela Merkel.
Avec cette petite phrase de Marine Le Pen qui a fait beaucoup de bruit, la France sera de toute façon gouvernée par une femme, soit moi, soit Madame Merkel. Emmanuel Macron, candidat de la soumission à Berlin, les attaques de la candidate Front National contre la chancelière n'ont échappé à personne. La Frankfurter Allgemeine observe que Marine Le Pen est allée jusqu'à souhaiter le pire aux Allemands. Si je suis élu, l'Allemagne va souffrir. Une stratégie absurde et passéiste, estime Klaus Petersick.
Marine Le Pen donnait l'impression de quelqu'un qui concevait les relations entre la France et l'Allemagne comme des vases communicants. Alors, ce que l'un perd, l'autre le gagne. Si la France est plus forte, l'Allemagne est plus faible. Sur ce point-là, Emmanuel Macron a beaucoup plus convaincu les Allemands qui, eux, n'hésiteraient nullement à dire ce que nous souhaitons, c'est une France forte. Nous voulons un partenaire fort parce que, comme ça, l'Europe sera plus forte.
Au final, il aura été très peu question de l'avenir de l'Union européenne et de la relation franco-allemande, une déception pour les observateurs allemands qui en attendaient plus et qui attendent maintenant beaucoup du futur président français. Si Emmanuel Macron est élu dimanche, il a déjà promis que son premier coup de fil à l'étranger serait pour Angela Merkel.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci et félicité pour nous, Klaus Peterzik, pour son français absolument impeccable.
Et après Berlin, direction Tokyo, Michael, le Japon où jamais une élection présidentielle française n'avait autant passionné.
Et jamais les médias japonais n'avaient accordé une telle place à un scrutin européen. Sujet, télé, radio, presse écrite, nos confrères japonais suivent la campagne au quotidien. Bonsoir Karine Nishimura-Poupée, correspondante de France Inter et de l'AFP à Tokyo.
Bonsoir Michael.
Alors, point d'orgue de cette campagne, bien sûr, le débat hier soir, débat très largement commenté aujourd'hui dans les JT japonais. Alors que chez vous Karine, ce jeudi est férié, hein, c'est le jour national de la nature, mais pas question pour les médias japonais de rater l'événement politique.
Les médias japonais sont d'abord fiers de leur perspicacité. Depuis des mois, ils ne parlent pour ainsi dire que de deux candidats et ce sont les finalistes. Emmanuel Macron, systématiquement présenté comme le pro-européen, et Marine Le Pen comme la partisane d'une sortie de l'Union européenne.
Les deux participants étaient Emmanuel Macron, qui veut garder la France au sein de l'UE, et Madame Le Pen, d'un parti extrémiste, qui insiste au contraire sur une sortie.
De même, si le débat opposant le meneur d'En Marche et la représentante du Front National a duré plus de 2h30, ils n'en ont, comme toujours, retenu que deux thèmes, l'Europe et la lutte contre le terrorisme, non sans souligner les échanges de propos vifs entre les deux prétendants, ce qui tranche avec les débats généralement très polissés au Japon.
Les relations de la France avec l'Europe, la politique de sécurité et de l'emploi ont donné lieu à des échanges très durs.
Le sujet européen les préoccupe car si Madame Le Pen gagnait, ils en déduisent que l'euro chuterait considérablement face au yen, dont la vigueur constituerait alors un handicap majeur pour les entreprises japonaises, problème auquel s'ajouterait ceux résultant d'un possible Frexit. Et si c'était le jeune Macron qui était élu président, il pense que la situation serait sauve pour l'euro et par voie de conséquence pour les industries nippones. Autrement dit, à 10 000 km de Paris, le sort de la France n'est pas tant le problème que celui de l'Europe.
On comprend bien. Et outre l'Europe, Karine, quid justement du thème de la sécurité?
Sur le dossier de la lutte contre le terrorisme particulièrement, les médias japonais ne prennent pas parti pour l'un ou l'autre, mais attendent de voir concrètement une politique à même d'endiguer la menace, sachant que si le Japon est, pour le moment, épargné sur son sol, la préoccupation est très forte, surtout à l'approche des Jeux Olympiques de 2020. Sans compter que les Japonais sont parmi ceux qui ont le plus renoncé au tourisme en France, précisément à cause des attentats.
Karine Nishimura-Poupée, correspondante de France Inter et de l'AFP à Tokyo. Merci. Et pour finir, Nicolas, petit détour par Washington et coup de chapeau à Chuck Schumer, le chef des sénateurs démocrates au Congrès, dont tout le monde parle aux États-Unis depuis samedi dernier. Et ce n'est pas un fait d'armes politique, quoique, qui lui vaut ce brusque regain de notoriété. Samedi dernier, vous le savez, était la date officielle des 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et Chuck Schumer a voulu fêter l'événement à sa façon, c'est-à-dire en musique. Le démocrate a donc publié sur la plateforme de streaming musical Spotify une playlist, ou si vous préférez une liste de chansons soigneusement sélectionnées, une trentaine de morceaux au total, à écouter comme autant de critiques de ces trois premiers mois de présidence Trump. Exemple avec The Who et ce titre « Won't get fooled again, tu ne m'y reprendras plus ». Et le grand Stevie Wonder est lui aussi convoqué avec « His Mistra Know It All » traduisé « C'est Monsieur Je Sais Tout ». C'est bien, et ça continue cette sélection, puis aussi dans des morceaux beaucoup plus récents, tels que le duo de Beyoncé et Shakira, Beautiful Liar, beau menteur. Beautiful liar, tell me how you tolerate the things. Et plusieurs titres, vous l'avez compris, font clairement allusion aux libertés avec les faits dont Donald Trump est coutumier, tel le célèbre Lying Eyes, regard menteur des Eagles, qu'on n'écoute plus de la même façon. You can't hide. C'est bien, hein?
C'est
la
très bien.
Playlist ouais. anti-Trump de Chuck Schumer, donc chef des sénateurs démocrates au Congrès. Sélection dans laquelle vous retrouvez aussi The Tears of a Clown, Les larmes d'un clown de Smokey Robinson and the Miracles ou Gold on the Sailing, de l'or planqué dans le grenier. Et figurez-vous que c'est la playlist la plus écoutée aux États-Unis depuis 6 jours maintenant.
Merci Michael Thébault, 18h51.
Hey, wake up!
No!
Jour dans le monde.
What?
Nicolas Demorand.
Oh my God.
Sur France Inter.
Et direction la Côte d'Ivoire où se déroulait le week-end dernier le festival des musiques urbaines d'Anoumabo près d'Abidjan. Un festival unique et une initiative, vous allez l'entendre, assez incroyable. Mathieu Culeron.
Oui, c'est une belle histoire en fait que celle du FEMUA. Vous pouvez entendre derrière nous les tambours qui ont célébré les 10 ans du festival. Un festival organisé par Asselfo, membre du groupe Magic System qu'on ne présente plus. Un pari un peu fou en fait puisqu'il est organisé dans le village d'Anoumabo dont est originaire Asselfo. Un festival où se sont produits les artistes les plus admirés en Afrique, Salif Keita, le groupe de Papa Wemba, Black M, ou encore l'enfant du pays Tikenja Afakoli dans ce quartier très pauvre où l'on propose des concerts gratuits et lors duquel on fait passer des messages d'espoir. Écoutez Asselfo.
Quand on parlait d'Anoumabo, c'était dans les fêtes d'hiver des journaux. Beaucoup de bandits, de braqueurs, de drogués, tous les maux de la société s'y retrouvaient en miniature à Anoumabo. C'était difficile. Mais aujourd'hui, avec Magic System, Anoumabo, ce n'est plus le même regard que les gens portent sur Anoumabo. C'est devenu le Anoumabo du Magic System. C'est devenu le Anoumabo du FEMUA. C'est devenu le Anoumabo qui est la capitale africaine chaque année pendant 7 jours. Nous, notre engagement, il se fait sur le terrain, ce n'est pas dans nos chansons. Le vrai partage du Magic System, c'est les écoles que Magic System construit. C'est les hôpitaux que Magic System réhabilite. C'est une valeur. On ne peut pas être artiste sans avoir pour valeur le partage.
Voilà l'espoir des habitants d'Anoumabo et leur fierté de voir ce festival international dans leur quartier qui bénéficie du coup de plusieurs plans d'action et d'aide sociale, Mathieu.
Oui, et le FEMUA, via une fondation, a fait construire une école maternelle et une école primaire dans ce quartier et qui a pour objectif de scolariser 3000 enfants dans le pays. Jean-Louis Bois est directeur de la fondation Magic System.
La réalité ici, c'est que le quartier est sous-développé, c'est un village. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation, on a l'impression que ce village est confondu à la ville. Mais les réalités sont là. Les populations, vous voyez, il n'y a pas de rue bitumée. Vous pouvez le constater, vous pouvez parcourir le quartier. Mais les mentalités ont commencé à changer. Parce qu'on se dit, si les jeunes garçons d'Anoumabo, les quatre magiciens, ont réussi à sortir de cette galère-là, c'est que nous, on peut y arriver. Il faut dire, surtout au sein de la jeunesse, il y a un sentiment de méfiance qui existe toujours au regard des appartenances politiques de chacun. Et c'est ce que prône également le FEMUA, le vivre ensemble. Et quand on sort d'une guerre, chacun a son camp. Et vous savez que quand il y a des guerres, les principaux protagonistes, ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là, au sorti des guerres, sont des rivaux, sont des ennemis. On va aller vers donc la réconciliation. Les signaux sont bons. Il suffit d'y croire. Il suffit de se donner à fond. Et puis voilà, tout ira. Rien n'est perdu.
Voilà, la musique pour tenter de faire oublier les divisions et la guerre en Côte d'Ivoire. Ça se passait le week-end dernier avec des stars sur scène, Mathieu.
Oui, alors tout d'abord, un grand hommage a été évidemment rendu à Papa Wemba qui est mort sur la scène de ce festival l'année dernière. Et puis l'un des artistes les plus attendus, évidemment, c'était Tikenja Fakoli, le chanteur qui n'est revenu que 3 fois en 10 ans dans son pays pour des raisons essentiellement politiques. Tikenja Fakoli qui a en effet attaqué dans ses chansons à peu près tous les partis au pouvoir en Côte d'Ivoire et qui en paye encore aujourd'hui le prix. Tikenja accueilli en véritable star à Anoumabo et qui soutient le projet du FEMUA.
Abidjan,
Africa.
C'est la preuve que ces artistes qui organisent ça n'ont pas oublié leur histoire, n'ont pas oublié d'où ils viennent. C'est très important. Moi, c'est la première fois que je participe au FEMUA. Mon rôle, c'est d'éveiller les consciences, de réveiller les populations pour leur dire « personne ne viendra changer notre situation à notre place ». Ça peut déranger, ça peut heurter certains politiciens. Ce qui m'a valu l'interdiction de séjour au Sénégal de 2007 à 2010. Ce qui me vaut aujourd'hui l'interdiction d'aller chanter ou bien de séjour même au Congo-Kinshasa. Ce qui me vaut aujourd'hui le manque de sponsors lorsque j'ai envie d'organiser un concert. Les grands sponsors sont toujours pas loin des hommes qui sont au pouvoir. Je suis sûr que même certaines personnes qui organisent une manifestation, on doit leur dire non, pas lieu. Donc ça fait que ça fait 20 ans qu'on est là, malgré les censures, malgré le manque de sponsors, on est là.
Voilà les mots de Tikenja Fakoli au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'était samedi dernier près d'Abidjan. Initiative, vous l'avez entendu, unique en son genre. Merci Mathieu Culeron.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito d'Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Direction le Venezuela, Anthony, où une rumeur a bien failli tout enflammer hier.
Est-ce que vous vous souvenez de Marco Rubio, vous savez, le sénateur très conservateur, voilà, hein, de Floride, candidat malheureux à l'investiture républicaine, balayé par Donald Trump? Eh bien, sur son compte Twitter, il écrivait hier avoir eu la confirmation que Leopoldo López avait été transporté de toute urgence dans un hôpital militaire. Or, Leopoldo López, ce n'est pas n'importe qui. C'est une figure de l'opposition au régime de Caracas particulièrement populaire. Depuis février 2014, il est en prison, accusé de terrorisme, de sabotage, de meurtre, et j'en passe, et même beaucoup, et condamné à 14 ans. Quant à Marco Rubio, bien, ce n'est pas non plus un quelconque complotiste ou opposant, mais bien un sénateur des États-Unis. Donc, une source sérieuse. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre au Venezuela, soulevant une énorme vague d'émotions qui menaçait de tourner vinaigre. Je rappelle que ce pays connaît manifestations et contre-manifestations depuis plusieurs semaines. En clair, la panique s'est emparée du régime qui a dû de toute urgence, en direct à la télévision, diffuser, il y a quelques heures à peine, une preuve de vie de Leopoldo López.
Et que disait Anthony cette preuve de vie? Et
on se croirait dans un roman très sombre de Garcia Marquez, disons l'automne du patriarche. On y voit Leopoldo López en forme et en chemise blanche, a priori, disant mot pour mot, ceci est une preuve de vie à l'attention de ma famille. Puis il ajoute, nous sommes le 3 mai, je ne sais pas pourquoi je dois enregistrer ça, ceci est un message pour Liliane, mon épouse, je vais bien. Voilà où en est réduit aujourd'hui le régime de Nicolas Maduro, devoir se comporter comme un vulgaire groupe terroriste devant apporter la preuve que son otage est en vie pour calmer les esprits.
Et que demandent les manifestants, Anthony?
C'est le plus incroyable dans cette affaire. L'opposition réclame juste l'application de la constitution de Chavez, c'est-à-dire la fixation de dates pour les élections locales et présidentielles dûment prévues par la constitution bolivarienne. Élections qui, depuis que Maduro a perdu les législatives, eh bien sont repoussées ou annulées. La dernière entourloupe trouvée par le régime est de changer la constitution. Vous avez bien compris, chers auditeurs, la constitution mise en place par Hugo Chavez ne serait bonne, ni même efficace pour les héritiers d'Hugo Chavez, qui donc proposent d'en changer de toute urgence, bien sûr.
Et il y a une solution, dernière question, une solution en vue?
Ben franchement, c'est difficile de l'entrevoir. Maduro a confié l'essentiel des ressources du pays à un holding détenu par les militaires à la façon cubaine, histoire de que le peu de devises qui rentrent eh bien, reste bien dans les poches du régime. Il y a bien les tentatives de médiation de l'Organisation des États américains, l'OEA, mais Maduro vient de décider de suspendre la participation de son pays. Il reste donc le Vatican qui continue de parier sur une sortie de crise, mais même le pape François s'impatiente devant la stratégie d'un régime qui semble se résumer en une phrase. Encore une minute, monsieur le bourreau.
Merci Anthony Bélanger. Un mot du téléphone sonne à 19h20. On va revenir sur le débat télévisé d'hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je suis très curieux, amis auditeurs, de savoir ce que vous en avez pensé. 01 45 24 7000 pour nous le dire.